présente peut-être un petit peu. Je m'appelle Brad Dixon, je suis d'origine canadienne, mais j'ai passé bien plus de ma vie en France qu'au Canada. Je suis là avec mon épouse Catherine, qui elle est française. Et nous habitons à Manosque, où je suis pasteur, implanteur d'église, on va dire. Nous avons trois grands enfants mariés et sept petits enfants. Et nous connaissons donc la famille Le Play depuis des camps à Tin Ranch. Donc merci pour l'invitation. Ça m'a fait bien plaisir de louer le Seigneur avec vous. Ces louanges ont bien rempli cette petite salle. C'est une joie. D'habitude, pour une prédication, je prends un seul texte et je prêche sur ce texte-là. Mais je ne vais pas faire ça ce soir. Nous allons traverser toute la Bible. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup de diapos. Vous n'aurez pas à chercher à chaque fois dans votre Bible parce que les diapos vont passer un peu trop rapidement. J'ai un souvenir qui me revient à l'esprit quand j'étais jeune homme. Je devais avoir, je ne sais pas, 22 ans peut-être. Je venais de vivre une expérience sentimentale difficile qui a fini par une rupture. J'avais mon cœur brisé et on avait assisté à un week-end d'église, mais moi je n'y étais pas dans ma tête, j'étais ailleurs. Et c'est une autre famille qui m'a ramené de ce week-end d'église. Et le père de famille a dû voir que j'étais peut-être pas au top et il m'a dit « Écoute, viens manger chez nous d'abord et après je te ramènerai chez toi. » Et donc, ils n'avaient pas prévu de m'accueillir. On a mangé des pâtes, je crois, ce soir-là, hein, comme on fait des fois quand on n'a rien prévu. Et j'étais assis sur un tabouret dans la cuisine. Et il m'a demandé comment j'allais. Comment j'allais. Et j'ai vidé mon sac un petit peu. Et cette soirée-là, alors que je suis entré dedans le cœur lourd, j'en suis ressorti le cœur léger. Et je suis reconnaissant pour l'hospitalité de cette famille-là, hospitalité imprévue, qui a été une bénédiction pour moi. Donc ça va être le thème de ma prédication, et j'ai deux buts en parlant de l'hospitalité. Le premier, c'est de nous amener à adorer un peu plus, aimer un peu plus notre grand Dieu, qui s'est montré hospitalier vis-à-vis de nous. Et j'espère pouvoir démontrer ça dans la Bible. Et puis, bien sûr, j'ai comme deuxième but de nous encourager aussi à considérer comment nous pouvons être en bénédiction aux autres par l'hospitalité. Donc, trois mots qui peut-être résument tout ce que je dirais ce soir. Accueilli par Dieu en Jésus-Christ, nous accueillons les autres autour de nous. Donc, vous le savez, la Bible raconte une seule histoire, qui est l'Évangile, l'histoire de Jésus-Christ, hein, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Même s'il y a beaucoup de petites histoires, en les rassemblant, on a une grande histoire. Et cette grande histoire, souvent, on peut la raconter avec quatre mots. Premier mot, création. Notre Dieu est le créateur de toutes choses. Et sa création était merveilleuse, parfaite. Mais vient le deuxième mot, chute. Nos premiers parents, et nous aussi d'ailleurs, nous nous sommes rébellés contre Dieu. Nous nous sommes éloignés de lui par notre péché. Ça crée une rupture, une cassure qu'on appelle la chute, séparée de Dieu. Troisième mot, rédemption. Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas voulu nous laisser dans cet état d'éloignement vis-à-vis de lui. Il a fait ce qu'il fallait pour nous réconcilier avec lui. Et ce terme de rédemption traverse toute la Bible. Bien sûr, le summum, c'est la croix de Jésus-Christ, la résurrection par laquelle Jésus-Christ nous réconcilie avec le Père. Et puis, le dernier mot est aussi important, restauration. Dieu ne va pas laisser sa création dans cet état de corruption qui continue. Et il va restaurer toutes choses, une nouvelle terre, des nouveaux cieux, et nos corps aussi, ceux qui sont enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, il va nous restaurer et on fera partie de cette nouvelle création. Alors le thème de l'hospitalité, on va le tracer à travers la Bible selon ces quatre mots. Commençons par la création. L'homme et la femme, nos premiers parents, ils sont des invités de Dieu. Quand je lis le récit de la Genèse, je vois Dieu dans ce premier chapitre de la Genèse qui est en train de préparer toutes choses. Il sépare la nuit, le jour, les eaux, la terre, etc. Et puis il met les plantes, les poissons, les oiseaux, les animaux, pour à la fin accueillir sa dernière création, Adam et Ève. Ça me fait penser un peu à une famille qui attend un premier enfant et qui se dit, bah tiens, il faut refaire la chambre, on va acheter un berceau, tout l'équipement qu'il faut pour cet enfant qui arrive. Notre Dieu est hospitalier, il a comme mis la table pour Adam et Ève. Mais vous connaissez la suite déjà dans le troisième chapitre de la Genèse. Adam et Ève se montrent des invités ingrats. En fait, même ils oublient leur statut d'invité et ils se comportent un peu en propriétaire. Ils se disent, pourquoi est-ce que ce serait Dieu qui nous dise ce qu'il faut faire ou pas, ce qu'il faut manger ou pas? Un peu aidé par le tentateur, on est tout à fait capable de décider. Et comme la séduction du tentateur, vous serez comme des dieux. C'est un peu comme si on vous prêtait une belle villa sur la Côte d'Azur avec une vue sur la mer, dans un jardin magnifique, vraiment une maison parfaite. Et le propriétaire vous dit, tout est à vous, faites comme vous voulez. Tout est à vous, seulement ne touchez pas à cet objet-là dans le frigo. Et vous êtes bien là dans cette villa, c'est des super vacances, vous profitez de tout, et puis vous oubliez un peu votre statut d'invité à un moment donné, vous commencez à vous servir des choses qui vous a interdit, et cela a amené une rupture entre Adam et Ève, entre les deux déjà, entre eux et la création, et puis surtout entre eux et Dieu, de telle sorte que Dieu les a bannis de son jardin merveilleux. Depuis, on peut dire que nous sommes des exilés. C'est aussi un thème qui traverse la Bible, l'exil. Nous avons été chassés de la présence de Dieu et du jardin. Tant que nous ne nous retrouvons pas à la maison du Père, nous avons l'impression d'être à côté de quelque chose. Mais dans la rédemption, Jésus-Christ lui-même accepte de s'exiler du ciel, de la présence du Père, pour venir participer à notre condition d'exilé, et même pour prendre sur lui nos péchés et payer les pots cassés pour nous réconcilier avec le Père et pour nous ramener chez le Père. On en parlera tout à l'heure. C'est pas beau ça? Je me permets déjà de vous interpeller puisque je ne vous connais pas, des jeunes, des moins jeunes. Est-ce que tous vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ pour être réconcilié avec ce Père, pour trouver votre vrai Père, votre vraie maison. Et puis, il y aura une restauration un jour. La Bible se termine avec, pardonnez-moi l'expression, une bonne bouffe, un banquet céleste. Moi, je ne vois pas bien l'écran. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ce texte dans l'Apocalypse, s'il vous plaît ?
Réjouissons-nous, soyons dans la joie, car voici le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. L'ange me dit alors, écris, Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.
Notre Dieu est hospitalier. Jésus a dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Notre Dieu est un Dieu hospitalier et nous ne serons jamais totalement chez nous jusqu'au jour où nous serons là-bas. Donc nous sommes un couple binational, mon épouse est française, je suis canadien. Quand les enfants étaient petits, on leur parlait en anglais, en français, c'était un peu mélangé. Et je crois que ma fille aînée, à un moment donné, elle était un peu mixed up, comme on dit en anglais, un peu confuse, perplexe. Elle m'a dit un jour, mais papa, je suis quoi en fait? Est-ce que je suis canadienne? Est-ce que je suis française? Alors mes orteils réfléchissaient dans mes souliers et j'ai dit, tu as trois nationalités. Tu as la nationalité canadienne parce que je suis canadien, mais ce n'est pas ton vrai pays, n'est-ce pas? Et tu as la nationalité française parce que ta maman est française, mais en fait nous ne sommes pas encore totalement chez nous ici. Là où nous serons un jour vraiment chez nous, c'est quand on sera dans la maison du Père. Ça c'est ta troisième nationalité, citoyen du royaume de Dieu. Donc ça c'est un petit parcours. Maintenant nous allons voir que la Bible parle souvent de l'hospitalité. Quelques belles histoires d'hospitalité. Beaucoup de belles choses se sont passées autour d'un repas dans la Bible, quand on y réfléchit. Abraham qui avait accueilli trois hommes de passage, et puis il s'est bien démené pour bien les nourrir. Et c'est ces hommes-là qui lui annoncent, l'année prochaine, à cette époque-là, vous aurez votre fils. Rahab, la prostituée, dans la ville de Jéricho, qui a ouvert sa porte aux espions. Est-ce que vous avez déjà pensé le risque qu'elle prenait de recevoir ces gens chez elle? Elle risquait sa vie. Mais elle a ouvert la porte à ces gens et elle les a cachés. Bel exemple d'hospitalité. Elle a été bénie et toute sa famille a été sauvée grâce à ce geste. David et Mephibosheth, est-ce que vous connaissez cette histoire? Mephibosheth, c'était un descendant du roi Saül. Saül avait été l'ennemi de David, il faut se le rappeler. David est le nouveau roi. L'habitude à cette époque et ces pays-là, c'était tu cherchais tous les descendants du roi précédent et tu les égouilles pour être certain qu'ils ne veulent pas te prendre le trône par la suite. David n'a pas fait comme ça. Il a dit, est-ce qu'il y a encore un descendant de Saül? Oui, Mephibosheth, c'était un paralysé. Il a dit, tu viens à ma table. Tu vas manger à la table du roi pour le restant de tes jours. Ça, c'est un bel exemple aussi, et c'est un peu prophétique de nous. Nous sommes les handicapés que Dieu invite à sa table par pure grâce. Nous ne méritons pas. La veuve Élie, Dieu avait dit à Élie d'aller dans un certain endroit et il demande à une pauvre veuve si elle ne pourrait pas le nourrir. Elle a dit, je n'ai plus rien à manger vraiment, on va manger notre dernier repas avec mon fils, mais venez et vous allez manger avec nous. Quel geste d'hospitalité. Elle en a été bénie. Par la suite, elle n'a jamais manqué de farine ni d'huile. Les pèlerins d'Emmaüs avec Jésus. Jésus qui fait semblant de vouloir continuer. Ils disent, non, la nuit tombe, venez manger avec nous. Ouh, quelle bénédiction ils ont eu ce jour-là de se rendre compte que le Christ ressuscité était à table avec eux quand il a rompu le pain. Peut-être quand ils ont vu les mains, ils se sont dit, Jésus-Christ dans notre maison. Des belles choses, n'est-ce pas? Sur le contraire, on pourrait parler de quelques défauts d'hospitalité célèbres dans la Bible aussi. Les habitants de Sodome et Gomorre, quand les anges sont venus rendre visite à Lot, qui disait, faites-les sortir, on va les violer. C'était leur conception de l'hospitalité ou l'anti-hospitalité. Et ils ont été jugés pour cela. Les Moabites et les Madianites, quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, ils devaient traverser certains territoires. Ils ont gentiment demandé au roi, est-ce qu'on peut passer sur votre territoire? On ne boira pas votre eau, on ne mangera pas votre nourriture, on veut juste traverser. Cette hospitalité leur a été refusée. Et par la suite, Dieu a prononcé un jugement sur ces peuples pour cela aussi. Les habitants de Bethléem, quand Marie et Joseph arrivent et qu'ils cherchent une place pour avoir l'enfant, mais il n'y avait pas de place pour eux dans cette ville, sauf dans une étable. Simon le pharisien, j'aime beaucoup cette histoire, Jésus entre chez lui, Simon le reçoit un peu froidement, mais il y a là une dame qui va pleurer sur les pieds de Jésus, lui laver les pieds, loindre de parfum, essuyer les pieds avec ses cheveux. Et Jésus va faire des comparaisons entre l'accueil qu'elle lui a donné et l'accueil plutôt froid de Simon. Et il finit en disant, elle m'aime beaucoup parce que ses péchés sont pardonnés. Sous-entendu, tu ne connais pas tes péchés, tu ne me les as pas avoués, tu ne m'aimes pas beaucoup parce que tu penses ne pas avoir beaucoup besoin de pardon. Le psaume 23, est-ce que quelqu'un pourrait lire ces derniers versets du psaume 23, s'il vous plaît?
Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
David qui se régale de l'hospitalité du Père. Tu dresses une table devant moi, face à mes ennemis. Je vais habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Père. J'espère que je ne vous donne pas trop faim avec mes plats là. Le Père du Fils prodigue. Est-ce que quelqu'un pourrait lire ce verset pour moi, s'il vous plaît, pour nous tous?
Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête.
Merci beaucoup. Je suis toujours, toujours touché par cette histoire. Ce fils-là, je lui aurais donné des coups de pied là où vous savez. Il avait pris la moitié des biens de son père. J'imagine que son père avait travaillé toute sa vie sur cette ferme pour développer ce qu'il avait développé. Le fils s'en va avec l'argent, il gâche tout, il dépense tout et il revient. Alors peut-être si le père est gentil, il pourrait lui dire « Bon d'accord, il y a un petit endroit à l'étable là-bas, tu nettoies et tu peux dormir là-bas. » Non. La bague, les chaussures, les vêtements, la fête, les danses, la musique. Ça, c'est l'accueil du Père pour nous. Magnifique. C'est une grâce. Quelqu'un d'autre, ce texte dans Luc, un bon défi pour nous de la part du Seigneur. Ce sont les paroles du Seigneur pour nous.
Lorsque tu organises un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux. Car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes.
Alors, quelquefois, peut-être, on se berce un peu d'illusions, en se disant qu'on est hospitalier, parce qu'on aime bien inviter des amis à la maison, ou la famille, les cousins, et c'est très bien de faire tout cela. Mais ce n'est pas l'hospitalité biblique. Parce que comme dit Jésus, est-ce que les païens ne font pas de même? Bien sûr, tout le monde plus ou moins fait ça. Mais l'hospitalité biblique, c'est plutôt une grâce. Bien sûr, il faut inviter ses amis, mais il faut aussi inviter peut-être la personne qui ne sent pas très bon ou qui n'a pas une conversation très intéressante. C'est une grâce. on accueille comme Christ nous a accueillis. L'hospitalité, un geste prophétique. Est-ce que quelqu'un veut bien lire ce texte de la fin de l'Évangile?
Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. »
Jésus a rassemblé ses disciples pour un repas, à quelques heures de son arrestation et sa crucifixion. Il dit, j'ai voulu manger ce repas avec vous, et nous allons le manger ensemble à nouveau dans le royaume de Dieu. Et donc ce repas était une anticipation des noces de l'agneau dont on a parlé tout à l'heure. Mais moi je pense que chaque petit repas, quand nous avons des invités, c'est aussi une anticipation de ce repas un jour. On veut leur donner un petit avant-goût du ciel. Ça n'a pas besoin d'être dans la qualité de la nourriture, mais dans la qualité de l'accueil. On leur montre que Dieu nous a accueillis, on est au bénéfice de sa grâce dans notre vie, et on veut montrer cet accueil aux autres, et un jour nous serons accueillis auprès du Père. L'hospitalité rassemble les peuples. Quelqu'un d'autre, ce texte?
Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest qui seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux.
Ce banquet vers lequel nous allons est un repas international. Dieu aime accueillir tous les peuples dans sa maison. Et nous pouvons aussi l'imiter en invitant ceux qui ne nous ressemblent pas, ceux qui sont un peu différents. Donc il se trouve qu'à Manosque où nous sommes, il y a un grand projet scientifique qui s'appelle ITER, et il y a 3000 employés à peu près qui viennent du monde entier, beaucoup de l'Asie, la Chine, le Japon, la Corée, la Russie, l'Inde. Donc nous sommes constamment en contact avec ces personnes et on aime beaucoup les inviter à la maison. Donc je vous raconte comment ça se passe. On a invité une famille chinoise à la maison, donc on met un plat devant eux. Premier réflexe, ils sortent le téléphone, ils prennent une photo du repas. Et puis à l'occasion c'était une raclette. Et puis on voyait qu'ils étaient un peu perdus, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce repas. Et on leur dit, vous n'avez jamais mangé de raclette? Non. Vous êtes en France depuis combien de temps? 8 ans. 8 ans et jamais mangé de raclette. Mais en fait, on n'a jamais été dans la maison d'une famille française. Depuis 8 ans. Alors, en tant que chrétien, on peut mieux faire que nos concitoyens. En invitant ceux qui ne nous ressemblent pas, pour être comme le Père Céleste. D'ailleurs, le mot « hospitalité », si on regarde l'étymologie, ce n'est pas toujours une aide quand on veut connaître les mots, mais c'est « xénophilie ». Vous connaissez le « xénophobie », c'est la peur de l'étranger. « Xénophilie », c'est l'amour de l'étranger. Donc, le mot « hospitalité », dans la Bible, à la base, c'est l'amour pour l'étranger. L'hospitalité est un commandement. Quelqu'un peut lire ce texte?
Exercer l'hospitalité avec empressement.
Exercer l'hospitalité avec empressement. Donc, ce n'est pas vraiment une option, en fait, pour les chrétiens. Alors, bien sûr, certains contextes sont plus faciles que d'autres. Des fois, notre conjoint pourrait ne pas être chrétien, ou peut avoir un temps de maladie, de fatigue, de stress, etc. Mais on peut garder en tête que quand c'est possible pour nous, nous voulons obéir à ce commandement biblique. L'hospitalité est un sacrifice et un exercice de foi. Quelqu'un ? Ça, c'est l'histoire d'Élie.
Je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un petit pot et un peu d'huile dans une jarre. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort.
Voilà. C'était son attitude, mais elle a quand même accueilli Élie à sa table. Donc je ne voudrais pas dire ici que l'hospitalité est forcément facile. Ça coûte un peu d'argent. Ça coûte, mais surtout, je pense, un peu de temps et d'énergie. Hein, des fois, le soir ou un dimanche au midi ou je ne sais pas quand, on a plutôt envie d'être cool. Mais il y a une bénédiction quand on va exercer la foi en ouvrant notre table. Alors, on n'a peut-être pas tous même une maison où on peut accueillir, mais on peut dire à quelqu'un, bah, tiens, tu veux venir boire un café avec moi au bistrot ou une bière, ou je ne sais pas ce que vous buvez, mais c'est aussi une forme d'hospitalité. L'hospitalité, mais pas n'importe comment. Quelqu'un lit ce court texte.
Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer.
Sans murmurer. Voilà. Oui, on accueille et des fois on doit demander au Seigneur, donne-moi une bonne attitude s'il te plaît pour cette invitation. L'hospitalité est signe de la maturité chrétienne puisque les responsables d'église, c'est parmi les critères pour discerner des responsables. Quelqu'un lit aussi.
Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les responsables qui doivent être hospitaliers, mais ça veut dire que c'est normal pour un chrétien d'être hospitalier. Et que, donc, d'autant plus, un responsable d'église doit exercer l'hospitalité. L'hospitalité est une chaîne. Encore un verset à lire.
Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu.
Où est ma motivation pour accueillir? Parce qu'un prédicateur l'a dit un jour qu'il fallait être hospitalier, j'espère que ce n'est pas ça. C'est parce que vous avez été accueillis par Dieu. Vous avez été touchés par la grâce. Et cette grâce, on ne peut pas la garder pour nous-mêmes. Elle doit déborder de notre coupe vers d'autres. Donc, puisque Christ nous a accueillis, nous nous accueillons. Le contexte de ce verset, c'est dans l'Épître aux Romains, il y avait dans l'Église un peu des tensions, peut-être entre des chrétiens d'arrière-plan juif, des chrétiens d'arrière-plan non-juif, et il leur dit, mais accueillez-vous les uns les autres. L'hospitalité récompensée, nous nous approchons de la fin. Un dernier lecture, s'il vous plaît.
N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges.
Oui, Hébreux chapitre 11. Probablement que l'auteur fait référence à Abraham, qui ne savait pas au début en tout cas, mais qu'il avait accueilli des anges. Mais il se trouve que mon épouse et moi avons accueilli un ange un jour. Alors je ne sais pas si c'était un vrai ange envoyé du ciel, mais il s'est révélé être un ange. Donc on était à l'époque un couple pastoral à Grenoble, nous avons vécu, et un jour une jeune femme que nous connaissions, jeune femme chrétienne, frappe à notre porte et elle avait à côté d'elle une autre jeune femme qui est arrivée de l'Éthiopie. Et elle nous a expliqué, écoute, j'habite un studio et cette dame, elle a nulle part où habiter, est-ce que vous pourriez l'accueillir? Donc, on l'a accueilli un temps, mais on a découvert une histoire incroyable. Je vous la raconte le plus courtement possible. Donc, elle a grandi dans une famille musulmane en Éthiopie. Et à l'âge de 16 ans, elle a rencontré au lycée un frère et une sœur chrétiens qui ont témoigné et elle a cru en Jésus-Christ. Elle a été immédiatement persécutée par sa famille, mais frappée avec des bâtons. Elle a sur son corps des traces d'avoir été frappée. Ils l'ont fermée dans sa chambre le dimanche matin. Elle sortait par la fenêtre pour aller au culte. Un jour, ils lui ont dit « Maintenant, on va te marier à un musulman ». Et elle a dit « Non, 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 je refuse, je ne me marierai pas avec un musulman ». Ils ont dit « Alors, on t'envoie en Arabie Saoudite, tu vas travailler là-bas ». C'est assez connu là-bas, il y a beaucoup de jeunes femmes éthiopiennes qui finissent là-bas, mais tout de suite, on leur prend leur passeport en arrivant. Et elle était en gros un esclave moderne pendant 4 ans dans une famille très très riche. Il était général dans l'armée de l'Arabie Saoudite et elle avait pris 2 bibles, donc une première bible, ils l'ont trouvée, ils ont tout déchiré sous ses yeux, ils l'ont jeté à la poubelle. Donc elle a été maligne, elle a trouvé un roman, elle a enlevé la couverture, elle l'a collé autour de sa deuxième bible pour qu'elle puisse continuer à lire la bible. Mais pendant 4 ans, aucune communion fraternelle, aucun enseignement. Et puis, il se trouve que cette famille est venue en Europe pour les vacances et l'ont prise, elle, pour s'occuper des enfants. Et par une histoire qui est trop compliquée à raconter, mais qui est miraculeuse, elle s'est échappée de cette famille. Et elle a été ramenée à notre porte par cette autre jeune fille. Elle est venue chez nous, elle s'est assise et elle nous a dit « Parle-moi de la Bible, parle-moi du Seigneur. » Et elle ne pouvait pas assez faire pour nous aider en famille, pour aider les enfants, repasser. Ma femme était très contente, moi aussi. Donc on l'a gardée, je crois, 6 mois chez nous. Et puis le Seigneur a ouvert d'autres portes. Elle a eu l'asile politique en France. Aujourd'hui, elle habite à Paris. Mais tous les ans, elle vient passer Noël avec nous et tous les étés, elle vient nous aider dans un camp biblique. Vous l'avez rencontré, Fosia. Et bien, c'est un ange dans notre famille. Non. Mais on ne le savait pas. Dernier verset. Quelqu'un peut lire ces 2 versets, s'il vous plaît.
J'étais étranger et vous m'avez accueilli.
Vous vous rappelez de ce texte? Jésus le dit, j'ai été étranger, vous m'avez accueilli, mais quand est-ce qu'on t'a accueilli? Quand vous l'avez fait pour l'un des plus petits, c'est pour moi que vous l'avez fait. C'est avec ces paroles que nous terminons notre réflexion et je vais prier. Nous voulons te bénir, notre Dieu, et te remercier parce que tu nous as accueillis, bien que nous soyons rebelles. Bien que nous ayons abusé de ton hospitalité. Merci pour ce jour où nous serons autour de toi, pour le banquet que tu prépares pour nous, pour la maison que tu prépares pour nous, pour notre patrie que nous attendons avec impatience. En attendant, Seigneur, donne-nous, s'il te plaît, de donner un petit avant-goût de tout cela, à tous ceux dans notre propre maisonnée, et à tous ceux que tu amènes à notre porte, donne-nous de accueillir au nom de Jésus-Christ. Et merci pour les bénédictions qui en découlent. Je voudrais te remettre cette assemblée aussi, Seigneur. Merci pour chacun qui est ici, que ton esprit les remplisse, que tu les utilises pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.